une question. Je vais peut-être démarrer, donc, pour ne pas être trop long, ma seconde partie, qui est donc de dire où va-t-on maintenant, quoi. Et donc, à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais regarder deux horizons. Je vais regarder un horizon à court terme, donc qui est donc cette année et l'année prochaine, quoi. Je dirais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation cette année et l'année prochaine? Et puis, je vais regarder un horizon un peu plus long terme, qui est de dire, finalement, quels sont les scénarios, quoi. Si on se projette à la fin de la décennie, quels sont les scénarios, qu'est-ce qu'on doit attendre de l'évolution et quels sont les différents scénarios possibles. À court terme, je fais un peu partie du corps des pessimistes. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de peu. Hein. On a un retour à une croissance positive dans un certain nombre de pays qui allait très mal. Alors, à nouveau, graphique affreux. Bon, je le reviens. Donc, ce que vous avez là, c'est la croissance du produit intérieur brut. Alors, vous voyez qu'encore jusqu'à la fin de l'année dernière... le Portugal, l'Espagne, l'Italie avaient des croissances négatives, hein, donc continuer à... Et cette année, on attend dans tous ces pays une croissance un tout petit peu positive. Peanuts positive, quoi. Je veux dire, de l'ordre de 1,5% de croissance en 2014, hein, dans ces pays. Vous voyez qu'en 2013, alors là, il y a les États-Unis qui, c'était juste à titre de comparaison, les deux seuls pays parmi ceux-là qui avaient une croissance positive, c'est la France et l'Allemagne. Et même dans ces deux pays, vous voyez qu'elle était extrêmement faible, la croissance. Hein. On n'a pas encore le chiffre final pour 2013 en France. La croissance va être sans doute de l'ordre de 0,2%, quoi. Donc, c'est pas... Bon. Aujourd'hui, on voit qu'on a un retour, une croissance un peu positive, qui est un retour d'ailleurs assez mécanique. Hein. Il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas baisser plus. Par exemple, quand une entreprise n'a plus de stock du tout, elle est bien obligée d'en remettre un peu, quoi. C'est le genre de truc qui se passe. Ou bien quand on a complètement arrêté d'investir, il faut bien qu'on recommence à changer quelques vieilles machines et on réinvestit un petit peu. Mais enfin, ce n'est pas une reprise, hein, c'est une espèce d'ajustement mécanique qui donne un peu de croissance positive. Alors, il y a plein de gens qui sont très contents de ça. Il faut se rendre compte quand même de la situation où sont ces pays. La plupart des pays d'Europe du Sud, on l'a vu tout à l'heure, ont des niveaux de production aujourd'hui qui sont entre 6 et 8% plus bas que leur niveau de production de 2008. Il y a 25% de chômage en Espagne, il y a 14% de chômage en Italie, il y a 12% de chômage dans l'ensemble de la zone euro, mais si vous enlevez l'Allemagne, il y a 16% de chômage dans la zone euro. L'Allemagne est à 5. Hein. Et donc, on a un problème majeur de production faible. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a 1,5% de croissance que ça change quoi que ce soit. Donc, il y a une première question de politique économique qui est comment on peut faire pour redoper un peu la croissance maintenant, quoi, je veux dire, pas en attendant 10 ans. Et alors là, c'est des trucs qui sont très compliqués, puisque politique budgétaire, alors je sais bien que vous avez mes camarades de l'OFCE à Paris qui continuent à dire qu'on peut faire plus de déficit public. Enfin, ils sont déjà encore élevés, hein, voyez, les déficits publics de la zone euro, hein, ça se promène entre 3 et 6% du PIB, à part les Allemands qui sont à zéro. Bon, on peut bien peut-être mettre un petit peu plus de déficit public, mais enfin, vous n'avez pas du tout de marge de manœuvre, quoi, probablement. Les dettes publiques sont très élevées. Et donc, on se dit que la marge de manœuvre, si on veut avoir un peu plus de croissance dans la zone euro en 2014, en 2015, c'est surtout une marge de manœuvre monétaire. Hein. Et alors là, c'est là qu'apparaît, mais je vais vite parce que ce n'est pas le cœur de mon sujet, une très grande différence entre la zone euro et les autres pays, hein, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon. C'est que la Banque centrale européenne n'a pas envie de passer à des politiques monétaires radicalement expansionnistes, hein, que les économistes ont décidé d'appeler non conventionnelles, hein, qui consistent à inonder le pays de monnaie, comme le font les Japonais, en se disant qu'à un certain moment, l'inondation du pays de monnaie va provoquer des effets positifs, parce que si vous remplissez de monnaie les poches de tout le monde, ils vont bien se mettre à consommer, à acheter des maisons, et ça marche, hein. Tous les pays qui ont fait ça ont fait repartir la consommation, les achats d'immobilier. C'est bien, si vous truffez les poches de tout le monde de monnaie, hein, par des politiques monétaires ultra-expansionnistes, vous faites repartir les économies. Vous savez que la Banque centrale européenne refuse de le faire pour des raisons idéologiques qui se comprennent d'ailleurs, consistant à dire que c'est complètement artificiel comme façon de faire repartir l'économie. Et qu'est-ce qui se passe quand on enlève la monnaie qu'on a mise, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on ne fait pas pire en faisant ça qu'en faisant rien? Mais les politiques sont très, très différentes. Un type juste d'illustration. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai... Voilà. Je vous montre. Non, je vais plutôt. Voilà. Ça, c'est la quantité de liquidité qui a été fournie par la Réserve fédérale à la Banque centrale des États-Unis. Hein, c'est des milliards de dollars. Donc, vous voyez qu'en 2008, la liquidité sur la monnaie créée par la Banque centrale, comme vous savez, c'était un peu moins de 1 000 milliards de dollars. Et aujourd'hui, on est au-dessus de 4 000 milliards de dollars. Vous savez que le président de la Réserve fédérale s'appelle Ben Bernanke. On l'appelle « Hélicoptère Ben ». Hein, parce qu'il est dans son hélico et il jette des billets sur le pays, comme ça. Hein. C'est à peu près ça. Mais ça, ça marche. Alors, honnêtement, ça marche aux États-Unis, ça marche au Royaume-Uni, ça marche au Japon. Évidemment, supposez que là, il y a que le mec de la BCE, pendant que je vous cause, il est en train de remplir vos poches de billets, hein, vous allez bien en faire un petit quelque chose, quoi. Donc évidemment, ça marche. Cela étant, c'est une méthode que la morale réprouve, normalement, et donc la BCE refuse de le faire, avec les risques inflationnistes à long terme, les risques... de bulles immobilières, etc. Et donc, la BCE ne le fait pas. Donc, sans doute, la seule marge de manœuvre pour avoir un peu plus de croissance en 2014 et 2015 qu'on pourrait avoir, on ne l'utilisera pas, parce qu'on a une banque centrale qui a une philosophie extrêmement différente de celle des autres grands pays de l'OCDE. Donc, voilà pour le court terme. Alors, sur le long terme, qui est plus dans mon sujet d'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on a comme scénario? Moi, je pense qu'il y a trois scénarios de long terme. Et je ne sais pas, je vais vous dire lequel je pense est le plus probable, mais honnêtement, je ne sais pas. Le premier scénario, c'est qu'on ne change rien à l'existant. C'est-à-dire qu'on fait des petites modifications institutionnelles mineures. Par exemple, on fait l'union bancaire. Alors, l'union bancaire, tout le monde en parle en disant que c'est un immense progrès. L'union bancaire, ça consiste à ce qu'au lieu que ce soit la Banque de France qui supervise les banques françaises, ça sera la BCE. C'est quand même pas un immense progrès. C'est un peu mieux parce que la BCE sait ce que font les banques françaises dans les autres pays européens. Donc c'est un peu plus pratique. Mais enfin, honnêtement, quand vous allez mesurer la croissance, ça ne va pas changer la seconde décimale de la croissance. Hein. Donc on va faire des petits progrès institutionnels. On va être un peu plus doué sur les politiques économiques. On va les superviser un peu mieux. On ne laissera pas les Espagnols refaire une bulle immobilière, hein, parce qu'on leur dira de faire des choses dès que ça apparaîtra. C'est qu'il y a un truc qui s'appelle le six-pack. Hein. Six-pack, normalement, c'est un truc où on boit de la bière aux États-Unis dans sa voiture. Hein. Mais six-pack, c'est les six nouvelles régulations en Europe. On surveille les déficits publics, l'inflation, mais aussi le déficit extérieur, le crédit, les prix de l'immobilier, la compétitivité. Hein. Donc on a le six-pack. Et on a l'union bancaire. Bon, enfin, vous voyez, c'est des modifications pas radicales. En tout cas, ça ne va pas aider d'un centime les pays du sud de la zone euro à sortir de leur crise. Quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe donc, c'est un équilibre, une perspective où on ne change pas beaucoup les institutions existantes. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va être dans un équilibre de marché qui est déjà celui qui se met en place. Qu'est-ce qui se passe dans cet équilibre de marché? Eh bien, les entreprises continuent à produire là où elles ont envie de produire. Alors, à nouveau, il peut y avoir certaines améliorations. À nouveau, on voit un peu d'industrie revenir en Espagne parce que les salaires ne sont pas très élevés, parce que la fiscalité est attrayante. Enfin, ça ne va pas changer radicalement la situation de l'Espagne, même si ça va dans le bon sens. Et puis, les niveaux de vie des pays vont continuer à diverger. C'est que depuis le début de la crise, le pouvoir d'achat de la Grèce a baissé de 30%, le pouvoir d'achat de l'Irlande de 20%, de l'Italie et de l'Espagne de 15%. Donc il y a une divergence des niveaux de vie entre les régions d'Europe, comme vous l'avez entre les régions américaines, hein, ou entre les régions italiennes. Hein, et puis l'ajustement, de plus en plus, comme aux États-Unis, se fait par les migrations. Et ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est qu'alors que jusqu'à la crise, il n'y avait aucun flux migratoire entre les pays européens. Aujourd'hui, il y a d'énormes flux migratoires. L'année dernière, en 2013, il y a 580 000 Européens qui sont allés travailler en Allemagne. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, c'est gigantesque. 350 000 Espagnols ont quitté l'Espagne pour chercher un travail. Donc l'ajustement se fait comme aux États-Unis. Si vous avez le malheur de naître dans le North Dakota, vous n'allez pas insister, quoi. Vous allez vous barrer en Californie pour trouver du boulot. Et donc, voilà. Alors, cet ajustement que j'appelle de marché, parce que finalement, c'est les entreprises, les décisions des individus, etc., qui fabriquent l'équilibre économique, hein, et donc qui implique qu'il y aura des régions riches peuplées, des régions pauvres peu peuplées, etc. Et à nouveau, pensez à l'Italie du Nord et du Sud, quoi, hein, ce qui est à peu près la même chose. Cet équilibre, c'est celui qui est en train de s'installer aujourd'hui. C'est celui auquel les conservateurs allemands, c'est celui que les conservateurs allemands souhaitent finalement, en réalité, ou disons que les conservateurs, de façon générale, dans la plupart des pays, peut-être pas en France, mais dans beaucoup de pays, souhaitent. Et si vous vous placez au niveau de l'ensemble de l'Europe, cet équilibre de marché spontané n'est pas un mauvais équilibre. Hein. C'est assez efficace que les... C'est mieux d'avoir un jeune Espagnol qui bosse en Allemagne qu'un jeune Espagnol qui est chômeur en Espagne, quoi. Bon. Et c'est mieux de fabriquer les voitures pas chères en Allemagne que chères au Portugal. Donc c'est un équilibre qui est sans doute pour l'ensemble de l'Europe efficace, mais qui est dramatique pour les pays. À nouveau, ce ne sont pas des régions d'une grande fédération, c'est des États souverains. Si vous êtes le gouvernement espagnol, hein, vous récupérez vos vieilles dettes, hein, on parlait des dettes tout à l'heure, c'est aussi bien des dettes publiques que des dettes privées, et puis les jeunes Espagnols se barrent en Allemagne pour travailler. Donc, qu'est-ce qui va rembourser les vieilles dettes si les jeunes diplômés sont barrés, quoi ? C'est quand même une question à faire. Et c'est exactement la question qui se pose aujourd'hui dans les pays périphériques. Hein. La substance économique se contracte et on a quand même hérité des vieilles dettes, quoi. Donc, qui va rembourser les vieilles dettes avec une substance économique qui se contracte ? Évidemment, si on était dans une fédération, ben, les dettes publiques, elles ne sont pas au niveau des régions, elles sont au niveau de la fédération. Hein, 75% de la dette publique des États-Unis, c'est la dette de l'État fédéral. Hein, ce n'est pas les dettes des États. Donc si, c'est la dette de, si c'était la dette de l'Europe, ça n'aurait aucune importance que les jeunes Espagnols soient à Berlin ou à Madrid, quoi. Mais du moment que les dettes sont au niveau des États, vous voyez, c'est affreux, quoi, je veux dire, d'avoir ce... Donc l'équilibre de marché, c'est le plus facile à mettre en œuvre parce que c'est celui qui se met en œuvre tout seul, quoi, je veux dire. Si vous ne faites rien, c'est ça qui se passe. C'est migration, déplacement des productions, inégalité de revenus, dépopulation et, hein, et voilà... Et c'est celui qui, d'ailleurs, est celui qui se met en place en ce moment. Simplement, il condamne sans doute à la banqueroute les pays périphériques qui vont perdre leur substance économique, leurs jeunes diplômés, hein, qui vont aller ailleurs travailler. Donc il aura des conséquences épouvantables qui sont dues, et ça, on va y venir, à l'absence de fédéralisme, au fait que ce sont des États souverains. Et donc, vous voyez, philosophiquement, enfin, pas philosophiquement, c'est vraiment, mais vous voyez... Si vous avez mobilité du capital, mobilité du travail et immobilité des dettes, c'est super compliqué à gérer, parce que qu'est-ce que vous faites dans un pays où le capital et le travail s'en vont si vous gardez juste les dettes, quoi. Ce qui est exactement ce qui est en train de se produire. Donc cet équilibre de marché, il serait, à nouveau, si vous êtes le président de l'Europe, c'est probablement celui-là que vous préférez, et pour les pays, il est épouvantable. Deuxième équilibre, bah, c'est que l'euro éclate. Deuxième scénario, c'est qu'à un certain moment, confronté à l'équilibre de marché, un certain nombre de pays décident bah, que ça ne va pas et qu'il faut retrouver une compétitivité forte pour réattirer des activités, du capital, des salariés, et qu'on va faire ça en sortant de l'euro et en dévaluant de 40%. Voilà. Il faut se rendre compte que... Alors, ça, si, alors les plus vieux de la salle se rappellent que... En 1992, il y a un système qui s'appelait le système monétaire européen, qui était un système de change fixe entre les monnaies européennes, qui a explosé. Hein. Et l'Espagne et l'Italie sont sortis, ont dévalué leur devise de 50%, et à la suite de ça, ont eu 10 ans de prospérité, parce qu'ayant dévalué leur devise de 50%, l'industrie est revenue s'installer, il y a eu des investissements, il y a eu de la croissance, ils n'ont plus de preuve de déficit. Et donc, à l'époque, la stratégie de quitter l'Allemagne et de dévaluer s'est révélée extrêmement payante pour l'Espagne et pour l'Italie. Il y a une très grande différence, et c'est celle dont on évoquait tout à l'heure aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de dette extérieure, il n'y avait pas de mouvement de capitaux internationaux, ça n'existait pas. Donc, l'Espagne et l'Italie n'avaient pas emprunté à l'Allemagne, hein, ça n'existait pas, les flux de capitaux internationaux. Toute la finance était complètement domestique, hein, on n'avait pas du tout de finance internationale. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui, supposé qu'on fait pareil. Le gouvernement espagnol décide de quitter l'euro et d'évaluer de 50% et de recréer la peseta. Hein ben évidemment, d'un côté, ils vont devenir super compétitifs. Donc, l'automobile européenne va aller en Espagne à toute allure, l'industrie, toutes les industries. Donc, ça, c'est bien. Mais d'un autre côté, l'Espagne a 2100 milliards d'euros de dette extérieure en euros. Qu'est-ce que vous faites de la dette extérieure en euros de l'Espagne ? Soit elle reste en euros, et comme la peseta s'est dévaluée de 50%, ça fait 4200 milliards de peseta, plus personne ne peut rembourser et tout le monde fait faillite en Espagne, soit l'Espagne la transforme en peseta, et là, vous ruinez les Allemands. Donc ça, c'est plutôt rigolo d'un côté, mais enfin bon, quand même, ça ne se fait pas, quoi. Hein, mais vous voyez, la grande différence entre 92 et aujourd'hui, c'est l'existence de ces énormes dettes et actifs extérieurs en euros, quoi, je veux dire. Hein. Donc ceux du Sud, ils ont des dettes en euros, et ils ne peuvent pas les rembourser en monnaie nationale si les monnaies nationales dévaluent. Et ceux du Nord, ils ont des actifs en euros, et ils sont ruinés. Enfin, les Allemands perdent la moitié de leur retraite si le Sud dévalue, quoi. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui est horriblement coûteux. Sans penser, par ailleurs, vous nettoyez les assureurs, les banques. Enfin, vous voyez, on a maintenant des bilans d'entreprises, de banques, etc. Et ce n'est pas que le système bancaire. Vous êtes Telefonica, la grande compagnie de téléphone en Espagne. Votre dette, elle est en euros. Vous en faites quoi si c'est de la pesette maintenant? Ben, vos recettes sont en pesette. Le reste de vos recettes, c'est au Brésil, c'est du réal, donc c'est encore pire, quoi. Hein, et vos dettes sont en euros. Ben, vous mourrez. Ou alors, vous ne remboursez pas vos dettes, quoi. Hein, donc, ça, les liens, le fait que les bilans sont en euros et puis en monnaie locale, c'est un truc qui rend extraordinairement compliqué l'explosion de l'euro. Et probablement, ça serait un massacre, quoi. Je veux dire, en termes de faillite, de défaut, de ruine. Hein, voilà. Et puis le troisième scénario, alors rappelons ça le fédéralisme, moi j'appelle ça le scénario de solidarité, quoi. C'est-à-dire on monte des mécanismes de solidarité entre les pays qui recréent, alors qui n'empêchent pas la spécialisation productive. Je ne crois pas du tout qu'on va remettre l'industrie au Portugal, quoi, je veux dire. Hein. Ça serait d'ailleurs assez... On pourrait, hein. Après tout, pourquoi, j'ai pas parlé, pourquoi l'Irlande est un grand pays industriel? Ben, l'Irlande est un grand pays industriel parce qu'il n'y a pas d'impôts, hein. Et donc, vous avez vu d'ailleurs ce qui se passe en ce moment avec Google, Yahoo, etc., qui vont tous s'installer en Irlande. Si vous installez en Irlande, vous payez 0% d'impôts pendant X années, puis 10. Hein. Si vous êtes en France, vous payez 37, donc vous n'hésitez pas une seconde. Donc, effectivement, si on disait au Portugal, on vous autorise à ce qu'il n'y ait pas d'impôts au Portugal, probablement, le Portugal pourrait se réindustrialiser. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas une bonne idée, quoi, je veux dire. Hein. D'une part, qu'est-ce qui va financer les dépenses publiques du Portugal dans la période transitoire, hein. Et puis, deuxièmement, ça crée des distorsions insupportables, quoi. Je veux dire, si tout le monde se met à jouer le jeu de l'Irlande, vous voyez, donc on ne peut pas accepter ça. Et donc, le scénario de solidarité, c'est un scénario de fédéralisme. Hein. Ça veut dire qu'il y a, de facto, les régions riches, parce qu'elles attirent les industries sophistiquées, renvoie une partie de l'argent dans les régions plus pauvres par le fait que, par exemple, la protection sociale est commune. Si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes au North Dakota, les enseignants sont payés par l'État fédéral, la santé est payée par l'État fédéral. L'État fédéral, c'est 75% du secteur public aux États-Unis. Hein. En Europe, l'État fédéral, c'est 1%. Hein. Donc, le fédéralisme, c'est une grande mécanique à réhomogénéiser la zone avec des transferts automatisés, hein, qui vont des régions riches vers les régions pauvres. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une initiative d'intellectuels franco-allemands, dont je suis d'ailleurs, et dont le cheerleader, c'est quelqu'un qui est tout à fait remarquable, s'appelle Ursula von der Leyen. Je ne sais pas si vous connaissez Ursula. Ursula, c'est la ministre allemande de la Défense. Hein, et avant, elle était ministre du Travail, c'est CDU. Et elle a pris l'initiative d'un appel européen d'intellectuels pour le fédéralisme, ce qui prouve que même en Allemagne, il y a des gens... Alors, et c'est la CDU, en plus, c'est pas même pas les socialistes allemands. Hein. Donc, c'était signé par beaucoup d'intellectuels européens. Donc, c'est des gens qui disent, ben, finalement, le modèle de marché pur, il va créer des tensions insupportables et un appauvrissement insupportable. L'explosion de l'euro, c'est une catastrophe totale. Et donc, la seule solution, c'est un modèle de solidarité. Et commençons doucement. Ursula et les autres proposent de mettre en commun les systèmes d'indemnisation du chômage. Hein, c'est-à-dire qu'il y aurait une cotisation européenne d'indemnisation du chômage, ce qui crée évidemment un très gros transfert des pays où le chômage est faible vers les pays où le chômage est élevé. Et si vous faites le calcul pour l'Espagne, ça lui rapporterait 3 points de PIB de transfert européen, ce qui est considérable. Hein, ça lui financerait la moitié de son déficit budgétaire. Hein. Donc voilà, c'est la troisième piste. Alors, laquelle est la plus probable? Moi, honnêtement, je ne crois... Alors, beaucoup de gens sur les marchés financiers, les gens que je fréquente tous les jours, continuent à penser qu'il y aura explosion de l'euro. D'ailleurs, si vous regardez historiquement, il y a très peu de zones monétaires qui ont résisté. Hein, donc c'est rarissime les zones monétaires qui résistent, hein, l'Union latine, etc., l'Union austro-hongroise, un peu bon. Mais moi, je ne crois pas que c'est le scénario le plus probable. Moi, je pense que le scénario le plus probable, ça va être une espèce de transition pénible du scénario d'économie de marché vers le scénario fédéraliste, avec des petits pas, mais qui finalement se feront. Alors ça mettra plus de temps qu'il faudra, il y aura des conflits, ça va, il y a des malheureux ministres qui vont passer des nuits sans dormir en discutant, hein, mais je pense que ça se fera. C'est-à-dire que fondamentalement, il n'y a pas d'autre choix, quoi, je dirais. Hein, c'est le seul choix raisonnable. Alors, j'ai expliqué ça, j'étais l'autre jour à Londres, je parlais à des clients de ma banque, là, et les types me disent, ouais, mais c'est bien les optimistes, tu fais partie des gens qui n'ont jamais cru, qui n'auraient jamais cru qu'il y aurait une guerre en 1914. Mais voilà. Mais je pense honnêtement que c'est... Voilà, vous voyez, même en Allemagne, hein, quand même, à part les fous bavarois, il y a quand même l'évolution vers l'idée qu'inexorablement, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, quoi, que de sortir du modèle purement d'économie de marché et d'aller vers un modèle avec des solidarités. Ça peut être le chômage. On pourrait penser qu'on met en commun on crée un système de retraite européen, retraite chapeau européenne, quoi, je dirais, que tous les Européens auraient en plus. On peut avoir une assurance maladie européenne. Vous voyez, on peut penser à pas mal de choses qui sont de la mise en commun des bouts du système de protection sociale. C'est beaucoup plus compliqué de mettre en commun des bouts des États, mais des systèmes de protection sociale, on peut le faire. Et vous voyez que ça crée du fédéralisme, parce qu'effectivement, dans des systèmes communs de protection sociale, les riches payent pour les pauvres, quoi. Donc ça crée les transferts qu'on a envie de mettre en place entre les régions. Juste un dernier ordre de grandeur. Aujourd'hui, les régions riches d'Allemagne, les Länder riches d'Allemagne, donnent 8% de leurs revenus aux régions pauvres d'Allemagne. Hein, c'est les transferts inter-Länder. Par exemple, si vous êtes à Berlin ou si vous êtes à Francfort, hein, vous payez 8% de votre revenu qui est redistribué dans les régions les plus pauvres, qui sont le nord et l'est, hein, de l'Allemagne. Hein, Et si vous calculez, on avait calculé dans la banque, quel serait, si on mettait un système de fédéralisme dans la zone euro, avec les mêmes caractéristiques que le fédéralisme allemand. Hein, c'est-à-dire on met entre les États européens les mêmes transferts qui existent entre les lenders allemands, compte tenu de la situation économique de l'Europe, on trouvait le même chiffre. Donc vous voyez que les États riches devraient donner 8% de leur PIB aux États pauvres. Alors après ça, vous allez raconter ça aux mecs qui habitent à Francfort. Ils vous disent déjà, on me pique 8% pour l'Est et maintenant, on va me piquer 8% pour les mecs qui font des olives dans le Sud. Donc ça fait 16, ça commence à faire beaucoup. Et oui, c'est ça l'idée. C'est qu'on ne va pas aller à 8 tout de suite, mais que par des petits pas. Et honnêtement, l'indemnisation du chômage, mais je vais juste dire une autre phrase après, j'arrête. C'est un petit pas intelligent. Si vous allez voir les parlements et que vous leur dites, on va mettre en commun la TVA, ben, les gens vont pousser des cris, c'est les impôts d'État, machin. Si vous leur dites, c'est qu'on va mettre en commun l'indemnisation du chômage, c'est légitime parce que bon, même un Allemand admet l'idée que ce n'est pas terrible d'avoir 25% de chômage. Quoi. Donc c'est assez légitime. C'est plus facile de commencer comme ça que de commencer par l'État. Quoi. N'oubliez pas quand même que même ça, c'est un gros bazar. Je finis là-dessus. Si vous voulez avoir un système européen d'indemnisation du chômage, il faut qu'il ait, vous devez avoir les mêmes caractéristiques dans tous les pays. Ça veut dire qu'il faut harmoniser les durées d'indemnisation, les générosités. Et donc évidemment, comme aujourd'hui, c'est que l'indemnisation du chômage à taux maximum, c'est 6 mois en Allemagne, c'est 2 ans en France. Et qu'au bout de 2 ans en Allemagne, c'est l'État qui vous désigne votre emploi, y compris rapportant 1 euro de l'heure. Hein. Donc il y a un gros, gros travail, même sur ce genre de projet modeste, pour le rendre faisable en harmonisant les règles. Voilà, je m'arrête là parce que là, et nous avons 7 minutes 12 secondes sur cette partie de perspective pour les questions. Voilà.
Bonjour. Est-ce qu'on ne pourrait pas évoquer le principe de subsidiarité pour justement faire que ces questions sociales soient traitées au niveau européen ?
Oui, enfin, le principe de subsidiarité, en théorie, il est assez facile à définir. D'ailleurs, c'est dans les traités, hein. Dans le traité de Lisbonne, c'est, comme vous savez sûrement tous, hein, c'est qu'on décide de faire par l'Europe ce qu'elle fait, qui est plus efficacement fait par l'Europe que par les États, et que le reste reste au niveau des États. Donc le problème, c'est que la frontière, elle est quand même incroyablement, dans la pratique, difficile à définir. Est-ce que reprenez l'indemnisation du chômage. Est-ce que on peut dire que l'Europe ferait mieux l'indemnisation du chômage que les États ? Alors, ce n'est pas que l'indemnisation, hein, c'est indemnisation, suivi, retour à l'emploi, etc. Est-ce que l'Europe le ferait mieux ? Ce n'est pas entièrement certain. La partie formation, retour à l'emploi, elle est sans doute mieux faite par les États, elle serait sans doute peut-être même mieux faite par les régions des États que par les États. Vous n'avez qu'à voir Pôle emploi, sans doute si on régionalisait Pôle emploi plus, ça marcherait mieux. Donc, probablement dans le chômage, on dirait que la subsidiarité pousse à laisser toutes les politiques de retour à l'emploi au niveau des États ou des régions, et par contre, que simplement le financement des indemnités est fait au niveau européen. Effectivement, on pourrait avoir quelques principes comme ça, et en disant, ben, qu'est-ce qui... Il y a quand même... c'est vrai qu'en Europe, il reste cette idée que quand même... c'est ce qu'on appelait dans le temps l'Europe des régions, c'est quand même plein de choses qui sont moins bien faites si on s'éloigne des choses locales. Quoi. L'action économique, on sait bien en Europe que ce sont les pays qui ont des pouvoirs régionaux forts qui la font mieux. Les régions allemandes sont un instrument incroyable de l'efficacité économique de l'Allemagne. C'est les régions qui s'occupent des entreprises, de la formation, des universités, etc. Et donc, et sans doute, si on passait ça à l'État fédéral allemand, ça marcherait vachement moins bien, quoi. Donc, il ne faut pas se forcer à passer à l'Europe des choses qui sont nettement mieux faites au niveau régional ou national. Et donc, moi, j'évoquais plutôt simplement des mécanismes financiers, hein, en disant on va avoir une cotisation européenne d'assurance chômage, quoi, qui est levée sur tous les salaires de la zone euro au même taux, mais pas le fonctionnement lui-même du système, quoi. Et vous avez raison, c'est une façon assez bien d'essayer de tracer une frontière entre ce qui est... Et le mécanisme financier, il est mieux fait au niveau européen, ça c'est tout à fait clair, c'est beaucoup plus efficace. Le système de retraite aujourd'hui en Europe, c'est une des régions, c'est complètement calamiteux. Un jeune Espagnol peut décider d'aller travailler en Allemagne. Il va démarrer dans le système de retraite allemand. Vous savez qu'il est largement à la charge des entreprises, hein, qui sont les entreprises qui payent l'essentiel des retraites en Allemagne. Un Espagnol de 40 ans fait une perte incroyable sur sa retraite s'il va travailler à 40 ans en Allemagne. Quoi. Il n'y a pas de portabilité des droits où il y a des pertes considérables. Donc ça serait extrêmement efficace d'avoir un système européen de retraite. Et là, la subsidiarité dit, oui, il faudrait que ce soit au niveau de l'Europe pour gérer les retraites, parce que ça permettrait que les gens changent de boulot et de pays à 40 ans sans perdre la moitié de leur retraite. Quoi. C'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc, je crois que c'est une bonne approche. Oui.
Bien, ma question était par rapport au marché financier. Les spéculations contre la Grèce ont été sans doute pas un facteur déclenchant parce qu'il y avait des fondamentaux économiques, mais un facteur aggravant et précipitant de la crise grecque. Vous indiquez que les financiers aujourd'hui croient plutôt à un scénario d'éclatement de la zone euro. Dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait y avoir des spéculations contre la zone euro depuis l'Europe ou depuis d'autres pays, par exemple les États-Unis, en vue de déstabiliser l'euro et de précipiter le scénario numéro 2?
Il faut être assez prudent sur cette analyse-là. Quand vous regardez les chiffres, l'essentiel de ce qui s'est passé sur les dettes publiques de la zone euro, quand on dit qu'il y a eu des attaques sur les dettes publiques, ce sont en fait des ventes d'investisseurs institutionnels européens. Par exemple, les assureurs français ont vendu leurs dettes grecques. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment de la spéculation. Quoi. Alors, il y a eu de la spéculation, mais quand vous regardez les positions vraiment spéculatives, par exemple sur les produits dérivés, c'est extraordinairement petit dans le cas des dettes publiques. C'est tout petit. Ce qui a été énorme, c'est que tous les assureurs dont vous êtes tous clients ont vendu la totalité de leurs dettes grecques, de leurs dettes italiennes, de leurs dettes espagnoles, de leurs dettes portugaises. Et c'est ça, essentiellement, la cause de la crise. Donc, ce n'est pas de la spéculation vraiment. Les plus gros vendeurs de dettes espagnoles, c'était les bons assureurs mutualistes à Niort. Donc moi, je n'appelle pas ça de la spéculation. C'est de la fuite, quoi. Je veux dire, les gens, ils ont jeté leurs dettes parce qu'ils avaient la trouille, quoi. La position spéculative sur les dettes, elle n'a pas été très grosse. Là où on a vu une spéculation extrêmement forte, c'était une spéculation contre les banques européennes et qui était organisée par les banques américaines avec la complicité du Trésor des États-Unis. Et ça, c'était un moment extrêmement choquant de la crise. La Réserve fédérale et le Trésor des États-Unis ont écrit à toutes les banques américaines en leur disant qu'ils pensaient que c'était une extrêmement mauvaise idée de continuer à prêter des dollars aux banques européennes qui allaient toutes mourir. Et ça a été l'épisode le plus dur, je crois, de la crise, qui était une spéculation pratiquement organisée par l'État américain contre le système bancaire européen. Dans le cas de la dette grecque, si vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Les Grecs avaient annoncé 4% du PIB de déficit public en 2009. Et puis, 6 mois après, la Commission européenne dit non, c'est pas 4, c'est 16. Donc les gens. Mais à nouveau, vos bonnes mutuelles d'enseignants ont été les premières à balancer toute la dette grecque. C'est pas quand même des violents spéculateurs. Ils ont juste essayé de ne pas vous faire perdre de pognon. Donc je crois que le rôle de la. Je ne parle pas de la crise bancaire où il y a une position spéculative évidente, mais dans la crise des dettes publiques européennes. Le rôle des positions spéculatives a été extrêmement petit par rapport à ce qui s'est passé, qui était le retour au nationalisme financier. C'est-à-dire qu'à la fin, un assureur ou une mutuelle européenne ne voulait pouvoir dire à ses clients « Nous n'avons de la dette que de ce pays-ci ». D'ailleurs, il y a même certains assureurs en France qui avaient fait des publicités en 2009-2010 disant « Nous n'avons absolument plus rien en Espagne, en Italie, en Grèce, on a plus que de la France ». Donc c'est surtout ça qui s'est passé, cette espèce qui est stupide, hein, mais ce retour au nationalisme financier qui fait que si vous êtes un assureur français, vous ne prêtez plus qu'à l'État français finalement, il n'y a plus aucun des autres États. Et ça, c'est toujours vrai aujourd'hui, ça s'est à peine desserré. Un assureur français aujourd'hui va presque exclusivement prêter à l'État français, un assureur allemand à l'État allemand, un assureur italien à l'État italien, alors qu'il y a 10 ans, ils avaient complètement... Donc on a eu une dédiversification des portefeuilles et un retour à des investissements extrêmement nationaux. Et je crois que, dans le cas de la crise de la zone euro, la spéculation financière joue un rôle extrêmement petit. Je ne parle pas de la crise des subprimes aux États-Unis, qui est une pure crise de spéculation, de malversation, etc. Ça, c'est autre chose. Mais la crise grecque ou espagnole, c'est une crise de panique, quoi. Les gens se sont dit « il faut que je vende avant qu'il soit trop tard ».